Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour. Bonjour Florence Delay.
Bonjour.
Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'abord de votre livre, Il me semble mesdames, qui vient de sortir aux éditions Gallimard, et puis surtout, je dis bien surtout, de Plume et Rafale, La passion du XVIe siècle, un ouvrage de Pierre Lartille, qui est sorti dans la collection des billets de la bibliothèque. Et c'est Plume et Rafale, c'est un petit bijou. C'est vraiment un bijou d'aisance, de poésie, d'érudition, d'élégance et aussi de malice. Parce qu'il évoque essentiellement la poésie du XVIe et tous ces personnages qui nous ont habités et que nous continuons d'ailleurs de visiter.
À mes yeux, en effet, c'est un livre précieux, extrêmement précieux, parce qu'il est écrit par un homme qui connaît le XVIe siècle comme sa poche, mais qui est loin d'être un professeur, un érudit. Non, c'est un amoureux. C'est un amoureux de ce siècle et de beaucoup, beaucoup de personnages, poètes ou prosateurs, qui circulent dans son livre. Il les connaît comme... c'est absolument merveilleux, comme sa poche. Et de sa poche vont sortir donc, ou plutôt de sa main, des portraits, des poèmes, des vers. Et peut-être pour les amoureux de la langue en particulier, ils n'entendront pas des choses très connues. Ce ne sont pas les grands sommets du XVIe siècle qui sont convoqués, à part Montaigne, encore un Montaigne vu par le petit bout de la...
On va reparler de lui, de Montaigne, parce que là, c'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, on pourrait presque maintenant déjà régler son sort à Montaigne.
Oui, non, mais pour achever, c'est-à-dire que, voilà, on va avoir un Ronsard qui n'est pas celui que tout le monde connaît, et surtout une foule, un escadron merveilleux, qu'il appelle des flottilles. Première flottille, deuxième flottille. Et on s'aperçoit que, dans toute la France, Paris n'a pratiquement pas de rôle, là. C'est partout, c'est la province, c'est... Bon, c'est la découverte de la poésie dans toute la France.
C'est parti, en fin de compte, avec Pétrarque, qui n'était pas français et qui a vécu bien avant tout le monde. Mais finalement, il a été traduit, et cette traduction, et c'est Clément Moreau qui a apporté le tout, et tout le monde a voulu, non pas l'imiter, mais continuer et jouer. Je dis bien jouer, avec les amours, avec les fleurs, avec les couleurs, à l'instar de Pétrarque.
Pierre Lartigue souligne le moment très important qu'a été la traduction intégrale du Canzoniere par Vasquin Filleul. Et cette traduction de Vasquin Filleul est très belle. Est très belle, et il n'y a pas de doute, ils vont tous la lire, et beaucoup, beaucoup vont s'inspirer de Pétrarque et de l'Italie en général, pas seulement de Pétrarque. Mais oui, et Lartigue admirait beaucoup Vasquin Filleul, et connaissait Vasquin Filleul comme, bien sûr, comme tous
comme,
ceux dont
comme
il parle.
Comme on pourrait se connaître,
oui.
Comme on pourrait se parler,
oui.
Parce qu'il vivait avec eux. Et quand j'entends, enfin je dis quand j'entends, mais quand je lis Pierre Lartigue, et quand j'entends tous les noms qu'il cite, tous les vers qu'il cite, une comparaison vient toute banale finalement, un collier de mots assemblés, je sais pas, comme des perles que l'on compte, alors que l'on compte en comptant, ou que l'on compte en racontant, et puis que l'on caresse, qu'on redécouvre, et on y retourne à chaque fois.
Oui, parce qu'il est un conteur, vous avez raison de souligner ça, il nous raconte des hommes et des œuvres, alors c'est étrange, parce qu'il va vite. Il va vite, mais dans une prose admirable et délicieuse.
Il s'amuse avec eux.
Oui, oui, oui.
Il dresse leurs portraits,
oui.
Il les situe, il les abandonne, il revient, il les cite, deux vers par-ci, deux vers par-là, il raconte leurs amours, parce que c'est très compliqué, les amours de tous ces personnages. Il ne faut surtout pas que ce soit simple. Et aussi, ce que l'on souligne également, c'est qu'à travers, derrière toute cette richesse de mots, cette richesse d'images, cette richesse d'amour, il y a toute la violence de cette époque qui est très forte, parce que les uns sont réformés, les autres restent catholiques, Quelques-uns partent pour Genève, d'autres, Jodel par exemple, d'autres rentrent, d'autres reviennent. Et malgré tout, il y a tout cet ensemble. Le dernier, j'allais dire...
Pas Jodel, je crois que c'est Agrippa Domini.
C'est Agrippa Domini, alors j'allais parler d'Agrippa Domini. Le dernier, oui. C'est Agrippa Domini. Oui. Il semblerait que Jodel soit allé à Genève. Mais...
Ah oui, vous avez raison.
Mais Jodel par exemple, vous l'aimez bien Jodel. Jodel, vous avez cité dans Il me semble Médale, un superbe sonnet de Jodel, Triple Diane.
Oui, c'est justement un sonnet rapporté. Et Pierre Lartigue nous rappelle dans son livre que c'est une forme... rapportés d'Italie, sont des sonnets faits sur un rythme ternaire, c'est-à-dire qu'il y a trois noms et tout va marcher par trois. Trois adjectifs, trois verbes correspondant chacun au nom choisi. Par exemple, si c'est un sonnet sur Diane, Diane qui est lune au ciel, Diane dans les bois, Hécate sous terre, et tout le sonnet va se construire à partir de ces trois strates d'une certaine façon.
Par exemple, justement, le dernier tercet, des flambants forts et griefs, feu, filet et encombre, lune, Diane, Hécate, aux cieux terre et enfer, ornant qu'étant, gênant nos dieux, nous et nos ombres.
Voilà, ornant qu'étant, gênant, Dieu, voilà, à chaque. C'est une forme, en fait, très difficile, mais tout à fait captivante. Voilà, c'est une des formes, parmi ces formes poétiques dont Pierre Lartigue parsème son livre, il y a aussi sa chère, une forme qu'il a beaucoup aimée, qui est la sextine, à laquelle il a d'ailleurs consacré un livre entier, qui s'appelle « L'hélice d'écrire », puisque la sextine tourne en rond à partir de six mots rimes qui permutent à chaque strophe. Et toutes ces formes sont connues, chéries par Lartigue, et là, il les entremêle avec leurs poètes et avec les hommes.
On voit par exemple Agrippa Domini, alors lui c'est le dernier de la bande, Agrippa Domini, c'est le plus jeune dans le fond, il les a presque pas connus parce qu'il est arrivé à la fin. Et il dit « Pour cause en mon amour, j'aime pour ce que j'aime, j'aime sans désirer que le plaisir d'aimer. Mon âme par son âme apprend à s'animer, je n'espère en aimant rien plus que l'amour même, et le bois de ce feu ne peut se consumer. » Et dans ces tragiques, on voit quelque chose qui est assez particulier parce que tout le monde s'amuse, Pierre Lartigue aussi naturellement, et ils ne cessent de pleurer leur amour parce que c'est tellement bien de souffrir. Et le joue avec ses souffrances, on le voit bien aussi bien avec Ronsard, avec tous les uns et les autres. Et on les regarde, on dit « mais attendez un peu ». Et quand on va un peu plus loin dans cette lecture, je reparle encore de l'amusement. Finalement, ce jeu de l'amour qui n'est pas du hasard de toute façon, parce qu'ils sont vraiment amoureux, continue à pleurer. Mais pourvu que cela vienne, pourvu que ça vienne. Et si ça ne vient pas, c'est tellement beau aussi.
On pourrait dire aussi que la deuxième moitié du XVIe siècle, sur laquelle porte explicitement le livre de Lartigue, car Plumes et Rafales ne couvrent pas tout le XVIe. Plumes et Rafales commencent à la moitié du siècle. La deuxième moitié du siècle chantera peut-être moins, un peu moins les amours que la première, parce que la poésie va s'orienter vers beaucoup d'autres territoires à cause de la guerre. Donc on va aller aussi vers la tragédie et vers toute une poésie méditative, de méditation chrétienne, qui est tout à fait remarquable et qui n'existe nulle part ailleurs. D'ailleurs, Roubaud a consacré un livre au sonnet de méditation. Et à la fin du livre de Pierre, il évoque Chassinier, il évoque cette tendance. On s'aperçoit qu'on connaît très très mal ce 16e-là. Un illustre inconnu, par exemple, enfin, pour moi, je m'excuse auprès de Pierre Lartigue, Flamio de Birague commence par chanter des amours, comme tous. Se tournant vers la mort, il écrit un épitaphe dont Lartigue dit qu'il reprend des jeux anciens, car finalement, la nouveauté va toujours de pair avec des reprises du passé. Passant, penses-tu pas de passer le passage quand mourant j'ai passé? Pense le même pas, si tu n'y penses bien. De vrai, tu n'es pas sage, car possible demain passera au trépas.
Et ceci est très beau et ça nous permet de revenir sur justement l'art poétique français de ces billets. Parce que celui-ci, on ne nous souvient plus très bien non lui. Lui, il s'est interrogé sur ce qu'on appelait la rime. Donc il étudie les vers, il les coupe, les formes et juste après l'épigramme, il place le sonnet. Et c'est la première fois. Bon, du coup, Ronsard, Dubellay, tous les autres se précipitèrent dans cette nouvelle forme et composèrent avec grâce, avec ces nouvelles règles. Parce que le sonnet est né à ce moment-là. Et le sonnet, il allait avoir comme une belle gloire. Il a continué pendant très longtemps. Il est apprécié.
Oui, ça c'est la fortune extraordinaire du sonnet. Et en effet, au début du XVIe siècle, il y en a très peu en France. Je parle, parce qu'en Italie, bien sûr, il est déjà très chanté, très écrit. Mais oui, c'est la Pléiade. Et tous ces poètes, car l'article sort de la Pléiade, montre que partout, dans toutes les parties de la France, dans toutes les provinces, il va y avoir des sonnets. Et c'est cet essor de la poésie qui nous paraît aujourd'hui le plus étonnant et le plus aimable.
Oui, il dit « Il était impossible de nommer les villes, les hameaux, les maisons où retentit les vers, où sonne le sonnet. » Voilà ce que disait Pierre Lartigue. Et alors vous arrivez plus tôt, vous, avec vos dames?
Oui, parce que je suis plus tôt, enfin j'insiste surtout sur la première moitié du XVIe.
Vous complétez parfaitement avec Lartigue.
Mais nous nous complétions si bien, figurez-vous, qu'il y a maintenant plus de 20 ans, on avait fait pour France Culture, avec le poète Jacques Roubaud et une actrice, Gianni Castaldi, une suite de soirées au Festival d'Avignon qui s'appelait Les Beaux Inconnus. Et Les Beaux Inconnus, c'était certains des poètes qui sont dans ce livre, comme Vasquin Filleul, traducteur de Pétrarque, comme Marc Papillon de la Frise, auquel on avait consacré une soirée. Il écrit parfois, il écrit en langage enfanson, en langage soudardant, et même en langue inconnue. Il écrit un sonnet en langue inconnue, qui donne « Serdis, Zérum, Déronti, Tulpini, Puroir, Lince, Linor, Orifilleux, Tic, Tic, Fallo, Millien, Estolieux. » Voilà, en reprenant uniquement...
Avec les mots.
Mais le très joli est en langage enfanson. « Eh mémé, bine-moi ma pouponne, cependant que papa s'en est allé au champ, il ne le sosa pas, il a mené ses gens, bine-mé ton maman, puisqu'il n'y a personne. Bon, » etc. Donc, là, c'est le jeu, le jeu pur.
Et vous aussi, vous avez beaucoup joué avec vos dames, il me semble, mesdames. Comment est parti ce livre? Quelle est l'idée qui vous a lancé? Qui vous a emmené?
En réalité, il s'agissait d'un livre sur l'école de Fontainebleau, qui est une école de peinture et de sculpture, qui crée un type de femme très étrange, très longue, très pâle, très nue. Et c'était donc un livre d'art avec tous les tableaux qui sont au Louvre et bien ailleurs, et à Fontainebleau. Et moi, je n'avais jamais écrit sur la peinture, et ça ne m'amusait pas du tout. Donc j'ai contourné la difficulté, et je suis allée prendre la main de Marguerite de Navarre pour essayer d'imiter sa belle prose et raconter des petites histoires sur Fontainebleau et sur ces dames. Et je crois que pour l'article comme pour moi, l'anecdote, le trait est important. C'est-à-dire que fois, si on choisit bien une anecdote, elle en dit plus long que bien des pages. Et un trait permet de s'approcher de quelqu'un. Et donc, j'ai mis cette esthétique à l'œuvre dans ce petit livre.
Et justement, à propos du fameux tableau où l'on voit ces deux dames, l'une en train de pincer le sein, le téton de l'autre, bon, on a beaucoup glosé sur ce tableau. Mais là, avec vous, la dame blanche et noire, c'est bien cela. Tout d'un coup, ça devient tout à fait évident. Et vous allez plus loin encore dans votre récit pour la description de ce tableau et donc le caractère de ces deux dames. Sont-elles sœurs? Sont-elles amantes? Sont-elles...
Oui, quand on ne sait rien et qu'on voit le tableau, on se pose la question. Et en fait, elles sont sœurs et la duchesse de Villars presse le sein de Gabriel d'Estrées pour montrer qu'il en sortira du lait et qu'elle est donc enceinte du roi. Mais moi, petite, enfin non, mais toute jeune adolescente, je voyais plutôt deux femmes qui vivaient ensemble.
Et vous situez juste avant l'histoire précédente, vous citez bien sûr le blason du Tétain de Marot, qui est une petite merveille.
Oui. Oui, Clément Marot a été le premier poète à blasonner le bout du sein des dames. Et je crois que c'est le premier. Nous sommes dans l'époque des blasons qui démantèlent le corps féminin, qui en font des fragments, blason de l'épaule, de la main, du pied, du cou. Mais je crois que le premier qui parle du bout du sein, c'est Clément Marot.
Mais le sein est très présent justement dans toute cette poésie. Et puis vous rebondissez avec Diane, avec l'escadron volant, toute l'histoire de ce début du XVIe siècle, mais toujours en bondissant avec l'anecdote, avec des citations, croisant donc ces fameux poètes. On parlait de Jodelle tout à l'heure, on parle Toussaint Dubreuil, Ronsard bien sûr, Papillon que nous venons de citer.
Mais... je crois aussi que le choix d'un rythme, d'une forme courte, une page, deux pages, oblige à, comment dire, à aller vite de façon très précise. On n'a pas de temps, il ne faut pas en perdre. on fait le plein. Et c'est ce que fait admirablement l'article dans son livre. Quelquefois, il y a plusieurs pages. Par exemple, Montaigne, il y a une dizaine de pages. Mais de temps en temps, il y a une page.
Montaigne, je vous en prie, citons Montaigne, parce que la description que l'on en fait, comment dire, est cocasse.
Alors, quelques lignes. Il a la taille au-dessous de la moyenne, forte et ramassée, le visage plein. La moustache garde les parfums dès qu'il y porte ses gants, son mouchoir. En sa jeunesse, l'odeur des baisers y restait collée tout un jour, et l'on savait d'où il venait. Il aime à se laver à grande eau, puisque le voici en chemise. Sa verge est un peu courte, non longa satis. Nature l'a traité illégitimement, incivilement. Pour s'habiller, il choisit le noir et le blanc, comme son père, et ne supporte pas d'être déboutonné. Il a horreur des pourpoints lourds, des manies de mode qui tournent boule son siècle efféminé. Malgré le sang juif dans ses veines et ses ancêtres marchands de harengs, il a conscience d'être un seigneur. Peu importe le nom, qu'il y ait des montagnes à Paris ou à Montpellier, seigneur d'une autre manière.
C'est superbe.
C'est superbe. Je sais pas, mais tout le livre est écrit comme ça.
Oui, complètement. Oui. Mais là, on va être obligé d'arrêter parce que finalement, on parlerait et autre. Mais peut-être avant de nous quitter, j'aurais aimé entendre la voix de l'artille réciter Guillaume de Saluces du Bartas. Vous savez, cette petite fantaisie. La gentille alouette, avec son tirelire, tirelire, tiralire, tirelire en tire, vers la vouste du ciel, puis s'envole vers ce lieu, vire et désire dit Dieu, adieu, adieu, Dieu. Au revoir.
Au revoir.